Dans notre culture occidentale, et en particulier française, les recettes de cuisine jouent un rôle important dans notre vie. Elles vont bien au-delà de la simple préparation des repas. Elles sont une source d'inspiration qui vont nous conduire à essayer d'autres choses ensuite. Une source de plaisir, une source de partage aussi. Tiens, passe-moi ta recette, ça m'a bien plu. Les recettes sont aussi des outils pratiques pour organiser la vie du quotidien. La recette invite, comme on le voit là sur cette image, à préparer tous les ingrédients, le matériel, et cela facilite la préparation, ça réduit le stress, ça rend la cuisine accessible au plus grand nombre. Même de jeunes enfants peuvent réaliser une recette de cuisine. Alors j'évoque ici les recettes de cuisine, mais finalement il y a tout un tas de recettes qui sont proposées dans notre culture, dans notre société, pour nous faciliter la vie, pour nous aider dans l'accomplissement de soi, pour une meilleure hygiène de vie, etc. etc. Il y a beaucoup de recettes qui sont, qu'on trouve sur Internet, dans des blogs, dans des magazines, dans des revues, et qui commencent souvent de cette manière-là. Trois mensonges à ceci ou cela. Quatre dangers. Cinq mythes au sujet de. Six freins à ceci ou cela. Six marques d'une. Sept étapes pour. Dix clés pour réussir ceci, cela, cela. On en a vu plein des recettes de ce type-là. Ce sont des recettes toutes faites, qui sont censées aider les lecteurs, les auditeurs à trouver le bonheur, à se réaliser, à s'accomplir, à plein de choses en fait. Et cette notion de recette, on a tendance parfois à la rechercher et même à la reproduire jusque dans notre vie chrétienne, jusque dans notre spiritualité. Je vois cela de plus en plus présent dans un certain nombre de blogs que l'on a sur Internet, qui sont tenus par des chrétiens, avec cette approche et ces méthodes qui sont à appliquer, ces méthodes toutes faites, ces formules qui sont toutes faites. Et tout ce qu'on peut y lire est souvent très pertinent, très intéressant, très enrichissant, il y a du bon, il y a du vrai dans tout cela. Ceci étant, je m'interroge, est-ce que ces recettes marchent toujours? Est-ce que ça marche vraiment? Aujourd'hui, je débute une nouvelle série de prédications sur le thème de la spiritualité chrétienne. Le monde dans lequel nous vivons est en quête de spiritualité. Quelques exemples, et je suis loin d'être exhaustif, très loin même, la pratique du yoga, qui est de plus en plus prisée dans notre monde occidental pour arriver à se détendre d'une vie de plus en plus stressante, etc. Mais le yoga véhicule toute une spiritualité. Ce ne sont pas que des exercices respiratoires et des assouplissements. Il y a quelque chose de plus derrière, il y a quelque chose de spirituel. Un autre exemple, et peut-être que vous avez déjà vu ces annonces publicitaires de ce spectacle qui tourne déjà depuis un certain nombre d'années, Shen Yun, ça vient de Chine. Ça pourrait être traduit « beauté d'être divin dansant ». Ce sont des danses, certainement un très beau spectacle, comme ça, vu de loin, mais ce sont des danses qui sont inspirées d'une discipline spirituelle et qui véhiculent un message spirituel inspiré de la culture bouddhiste, taoïste, etc. Toute une polémique aussi derrière sur ça fait que ça véhicule un message politique aussi, mais ça c'est encore autre chose. L'occasion de prendre conscience avec ces juste deux exemples que je viens de citer, que la spiritualité elle est souvent là où nous n'y pensons pas. Et soyons vigilants, de cette vigilance dont notre pasteur Pierre aussi nous a parlé la semaine dernière dans sa prédication. De nos jours, on veut de moins en moins entendre parler de religion, mais on veut de plus en plus parler de spiritualité, et même on peut dire que notre monde a soif de spiritualité. Alors, dit comme ça, ça pourrait paraître un peu paradoxal, de moins en moins de religion et de plus en plus de spiritualité. Mais quand on y réfléchit bien, c'est pas tant paradoxal que cela, parce que dans l'esprit des gens, la religion évoque quelque chose d'assez péjoratif, avec un ensemble de règles auxquelles il faut se tenir, et des règles qui sont imposées de l'extérieur, d'un être divin, d'une divinité ou quoi. Ne pas faire ceci, faire cela, une liste de choses. Alors que la spiritualité, pour les gens qui nous entourent, c'est quelque chose qui prend naissance à l'intérieur de nous-mêmes et qui relève d'une expérience personnelle sans qu'il y ait nécessairement une influence venant de l'extérieur. Et ça donne l'impression d'une maîtrise de soi-même. Et je vis, et chacun vit sa propre spiritualité. La religion n'a pas le vent en poupe. La spiritualité, si. En tant que chrétiens, nous sommes invités à vivre et développer une spiritualité chrétienne, c'est-à-dire une conception de la vie spirituelle qui trouve ses racines dans la Bible, qui est authentique dans l'expérience aussi que l'on en fait. Et là, il y a une grande différence avec la conception ou les conceptions de la spiritualité que l'on peut avoir par ailleurs. Là où pour beaucoup de gens, ils pensent que la spiritualité est un cheminement vers une aspiration, vers une divinité, la spiritualité chrétienne se présente bien plutôt comme un cheminement avec Jésus-Christ. En tant que chrétiens, nous sommes en chemin avec Jésus-Christ, dans une relation avec Jésus-Christ. Et non pas tant vers lui, même si nous lisons dans la Bible de fixer les regards sur Jésus, mais en même temps, ce Jésus sur qui nous fixons nos regards, il est avec nous, il est présent à nos côtés, il nous a donné son esprit qui habite en nous, et nous cheminons avec lui. L'objectif de cette série sur la spiritualité chrétienne consistera à présenter autant que possible une vision d'ensemble de la vie spirituelle que nous menons en tant qu'enfants de Dieu dans le but de grandir à la ressemblance de Jésus. Car je pense que c'est notre aspiration à tous d'être habités d'une passion pour notre Sauveur Jésus-Christ, d'un désir qui est toujours sans cesse renouvelé de le laisser agir dans notre vie, de telle sorte qu'il puisse réaliser en nous son dessein, son projet, comme nous le lisons dans la lettre de Paul aux Romains. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Romains 8, verset 29. Être semblable à l'image de son Fils, à l'image de Jésus. C'est bien cela la finalité de la spiritualité chrétienne, c'est de connaître Jésus-Christ dans le but de vivre de plus en plus comme lui a vécu. Alors je viens d'introduire cette série sur la spiritualité chrétienne et ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est peut-être un peu la base du commencement, des relations fondées sur l'amour. Des relations fondées sur l'amour. Si Dieu a créé l'être humain, ce n'est pas parce qu'il avait besoin de l'être humain, comme s'il avait besoin de nous, et qu'il lui manquait quelque chose et qu'il avait besoin de quelque chose. Non, Dieu se suffit pleinement à lui-même. Et d'ailleurs, nous aurons l'occasion d'en reparler dans les formations du samedi, puisque au mois d'octobre, nous parlerons de Dieu, de la doctrine de Dieu, la Trinité. Dieu est trinitaire, il est Père, Fils et Esprit. Et on voit, et la parole de Dieu nous montre comment ces trois personnes de la Trinité divine interagissent ensemble, sont en relation les unes avec les autres, ont des œuvres aussi ensemble, complémentaires. Et donc, Dieu se suffit en lui-même. Il n'a pas besoin d'un autre. Il ne lui manque pas un autre. Il se suffit en lui-même. La Bible nous dit que nous avons été créés en image de Dieu. Et l'une des conséquences de cela, c'est que comme Dieu est un être de relation, déjà en son sein, de par la Trinité, et aussi de par le fait qu'il est venu jusqu'à nous pour entrer en relation avec nous, eh bien, nous aussi, nous sommes des êtres de relation, des êtres relationnels. Nous sommes doués de facultés relationnelles. Nous avons été créés comme tels par Dieu lui-même, un Dieu de relation. Je vous invite à lire ce texte qui va être en filigrane de tout ce dont nous allons parler ce matin dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 22, à partir du verset 34. Le texte s'affiche dans la Bible de la Colombe. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le plus grand commandement, quel est le grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Nous avons été créés pour développer une relation, une intimité, une communion avec Dieu sur le plan vertical et aussi avec les autres êtres humains sur le plan horizontal. On va commencer par le premier et grand commandement qui est présenté ici. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Jésus cite un texte de l'Ancien Testament dans le livre du Deutéronome, chapitre 6, verset 5. Pour aimer Dieu, à la mesure de ce que ce texte nous dit, il nous faut d'abord prendre conscience de l'amour que Dieu a pour nous. Un amour qui dépasse tout ce qu'on pourrait imaginer. L'amour de Dieu pour nous est inconditionnel. Rien de ce que nous pourrons ou avons pu accomplir pourrait amener Dieu à nous aimer davantage ou inversement l'inciter à nous aimer moins. C'est un amour inconditionnel. Dieu aime sa création. Il aime les êtres humains qui sont le paroxysme de sa création. Et il l'a montré de la manière la plus grande, et on vient de le rappeler aussi dans la première partie de ce culte, dans ce que Pierre vient de développer. Par amour, il est venu jusqu'à nous, en la personne de Jésus-Christ, son Fils, qui a donné sa vie pour nous sur la croix, qui nous a rachetés de nos péchés en payant le prix de notre condamnation, et il a fait de nous ses enfants par adoption. Alors, comment répondons-nous à une telle démonstration d'amour? Bien sûr, nous y répondons par la reconnaissance, et c'est ce que nous venons de faire dans la première partie de ce culte. Et puis aussi, en retour de son amour, notre réponse est cet amour dont Jésus parle dans ce passage de Matthieu 22, verset 37. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Aimer Dieu avec tout ce que nous sommes, corps et âme. Aimer Dieu, ça commence par apprendre à le connaître tel qu'il est. À le connaître tel qu'il est. Et ce n'est pas un hasard si dans ses lettres, l'apôtre Paul commence souvent en s'adressant à ses lecteurs, en invitant à connaître Dieu. Je prends un exemple dans Colossiens 1, les versets 9 et 10. « Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. » Philippiens 1 également, Éphésiens 1 également. Ne nous lassons pas de connaître Dieu. Et pour être en relation avec lui, il faut prendre le temps de le connaître. Je pense ne l'apprendre à personne, mais si nous voulons être en relation, apprendre à connaître les personnes de notre entourage. Il faut passer du temps avec ces personnes. Il faut les écouter, dialoguer avec elles. De même avec Dieu, prenons du temps pour l'écouter, parce qu'il nous parle par sa parole. Prenons du temps pour lui parler, nous aussi, en réponse à ce qu'il nous dit dans sa parole. Prenons du temps pour développer notre relation, notre intimité avec lui. Et là aussi, je nous renvoie à ce que Pierre a dit la semaine dernière dans sa prédication. Une seconde manière de manifester notre amour pour Dieu, c'est de le servir et de lui obéir. Je me souviens d'une discussion avec notre fille Célia, il y a un petit moment de cela déjà, sur les différentes manières de dire « je t'aime » à une personne. Et l'une de ces manières, c'était le respect et l'obéissance. Et dans le contexte avec Célia, c'était l'obéissance d'un enfant envers ses parents. C'est aussi une manière de dire « je t'aime ». Et on retrouve cela aussi dans notre relation à Dieu. Si nous l'aimons, alors nous allons l'écouter, écouter ses commandements et les mettre en pratique dans notre vie. Jésus dit cela dans l'évangile de Jean, chapitre 14, et puis ensuite le chapitre 15. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Garder les commandements, ça signifie justement y obéir, les mettre en pratique. Soyons assurés que quand Dieu nous demande de faire ceci ou cela, c'est parce que cette chose-là va conduire à notre bien. Et inversement, lorsque Dieu nous recommande de ne pas faire telle chose ou telle chose, c'est parce qu'il sait que cette chose-là en question n'est pas bonne pour nous. Notre Créateur sait ce qui est bon pour nous, mieux que quiconque. Et nous pouvons faire confiance à notre Père Céleste, le servir, lui obéir. C'est le grand commandement, le premier et grand commandement dans le texte que nous venons de lire. Dans cette relation verticale de nous vers Dieu, nous sommes des êtres relationnels et nous ne sommes pas en relation uniquement avec notre Dieu dans cette relation verticale, mais il y a aussi cette relation horizontale avec nos semblables. Et de là vient la seconde partie du texte que nous avons lu avec le second commandement que Jésus donne à cette personne qui vient lui parler. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et j'aimerais commencer ici par la deuxième partie du commandement, le « comme toi-même ». Est-ce que nous savons nous aimer nous-mêmes à la bonne mesure? Qu'est-ce qui nous définit? Est-ce que nous nous voyons nous-mêmes en fonction de nos diplômes, en fonction de nos connaissances, de nos performances, de nos voyages, de notre allure physique ou de notre beauté extérieure, de tous ces critères qui sont en fait importants pour le monde dans lequel nous vivons? Est-ce que c'est ça qui nous définit? Est-ce que nous cherchons à plaire aux autres, à leur faire bonne impression? Est-ce que nous agissons avec le désir de nous mettre en avant, à rechercher une gloire? Si c'est cela qui va nous définir, alors les relations que nous allons bâtir risquent de ne pas correspondre beaucoup à l'exemple de Jésus. Parce qu'à ce moment-là, nos actions vont être davantage dictées et motivées par nos propres intérêts plutôt que les intérêts de notre prochain. En tant que chrétien, c'est en Jésus-Christ, que nous trouvons notre véritable identité, notre vraie valeur. Et ça, c'est un enseignement fondamental qui découle de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous enseigne que ce qui importe devant Dieu, ce n'est pas ce que nous accomplissons, mais c'est ce que nous sommes devenus par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes enfants de Dieu et nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons à Dieu. Et il nous faut apprendre à faire taire tous ces mensonges du monde qui ne nous renvoient finalement qu'à nos échecs ou à nos insuffisances, pour apprendre à nous voir comme Dieu, lui, nous voit. Car notre vraie valeur, elle est dans le regard que Dieu va nous porter. Et c'est cela qui nous aidera à aimer notre prochain comme nous-mêmes, parce que nous aurons une appréciation de nous-mêmes qui dépendra du regard de Dieu sur nous et non pas du regard du monde sur nous. Jésus lui-même avait compris cela. Il a tiré son identité de sa relation personnelle avec son Père céleste, dont il a pris, et on le voit dans les évangiles, il a pris grand soin de la nourrir, cette relation, tout au long de son ministère terrestre. Il n'a pas tenu compte de l'opinion de tous ces gens dans son entourage, à commencer par les gens de sa propre famille, et puis les pharisiens, les sadducéens, comme il en est question dans ce texte de Matthieu 22, et tant d'autres qui n'ont pas été tendres avec lui et qui lui ont renvoyé une image négative de lui-même. Lorsque nous nous rappelons ces vérités, de qui nous sommes en Jésus-Christ, au point que ces vérités nous façonnent intérieurement, alors nous serons davantage en mesure d'aimer notre prochain comme nous-mêmes et de, comme on va le voir, nous placer au service de notre prochain. Si on veut dire les choses un peu autrement, dans notre société, c'est le faire qui va déterminer le être. C'est ce que nous faisons qui va déterminer ce que nous sommes. Si un étudiant a 15 sur 20 à son contrôle, il vaut 15 sur 20 dans cette matière. Si j'obtiens mon diplôme d'ingénieur là, ben voilà, je suis donc un ingénieur. J'ai fait mon examen, hop, je vaux tant, je suis ingénieur. Le faire détermine le être, ce que je suis. Ça, c'est la société dans laquelle nous vivons. Dans la Bible, la logique humaine est renversée. C'est le être qui détermine le faire. C'est ce que nous sommes en Jésus-Christ qui va nous conduire à des actions en corrélation avec ce que nous sommes devenus par la foi en Jésus. D'où l'importance de s'approprier les vérités de l'Écriture sainte qui nous enseigne sur ce que nous sommes en Jésus, notre être en Jésus, parce que c'est cela qui va ensuite nous porter à des actions, à faire des actions qui vont découler de ce que nous sommes. Voyons maintenant la première partie du commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour du prochain tire son fondement de l'amour même de Dieu. L'amour de Dieu pour nous, et aussi de l'amour que nous, en réponse, nous portons à Dieu. Plus nous aimons Dieu, plus cela aura des répercussions sur le plan horizontal avec nos semblables. Toujours dans ces passages de Jean, chapitre 14, 15, il y a ce passage de Jean 15, verset 12, qui dit « Voici mon commandement, dit Jésus, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » L'amour du prochain tire son fondement de l'amour de Dieu pour nous. Et l'amour ici porte dans le contexte sur les disciples entre eux, mais cet amour s'étend, comprend tous ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, notre prochain d'une manière générale. Et tout comme l'amour pour Dieu conduit à prendre du temps pour connaître Dieu en vue de le servir, on va retrouver aussi ces deux éléments-là dans l'amour du prochain. Connaître notre prochain. Apprenons à connaître notre prochain. C'est passer du temps avec lui. C'est créer des occasions pour aller à sa rencontre. On peut passer 10 ans, 20 ans à côté d'un voisin sans jamais décrocher un seul mot. C'est incroyable. N'attendons pas que les gens viennent à nous. Prenons l'initiative, tout comme Dieu a pris l'initiative de venir vers nous, lui, cet être de relation. Créons, suscitons des occasions de dialoguer avec ceux qui nous entourent. Ça vaut même dans l'Église, pas seulement avec notre voisin qui est là depuis peut-être tant d'années que nous sommes, que nous vivons dans nos lieux de vie respectifs. Même dans l'Église, on peut se croiser dimanche après dimanche, échanger rapidement quelques mots, se faire la bise qui va bien. C'est déjà bien. Ceci étant, qu'est-ce que je peux faire pour apprendre à mieux connaître, à développer des relations avec mes frères et mes sœurs dans la foi? Surtout dans une culture aujourd'hui où nous vivons à l'ère de l'immédiateté. Tout doit se faire très vite, parfois même par écran interposé. Je t'envoie un message cette semaine, ok, je te réponds vite. Mais ne nous méprenons pas. Là où les réseaux sociaux parlent de contacts et d'amis, la Bible, elle parle de relations. Et elle nous encourage à développer des relations. Les contacts, les amis, ne sont pas toujours des relations, même ne sont souvent pas des relations. On peut avoir 10 000 contacts, ça ne veut pas dire qu'on est en relation avec 10 000 personnes et qu'on entretient et nourrit ces 10 000 relations. Beaucoup de temps, ça demande beaucoup, beaucoup de temps pour investir dans les relations avec les gens autour de nous, à commencer par nos frères et sœurs dans la foi. Et quand on parcourt les évangiles, on voit que Jésus était en relation avec ses contemporains, même avec ceux qui étaient rejetés par la société. Et il nous laisse un exemple d'aller vers, de prendre le temps, d'aller au contact de ceux qui nous entourent et de développer petit à petit des relations avec ces personnes. Ça fait 2 ans que Laura et moi et nos enfants habitons dans le quartier. Ça fait 2 ans que j'accompagne régulièrement mon enfant à l'école, à la même école. Ça fait 2 ans que régulièrement, le matin et ou le soir, et parfois le midi, je croise un papa qui vient lui aussi chercher ou accompagner son enfant à l'école. Ça fait 2 ans que je dis bonjour à ce papa. Ça fait 2 ans que je sais où il habite parce que je passe devant chez lui tous les jours quand j'accompagne mon enfant à l'école. Ça fait 2 ans. Et ça fait seulement 2 jours, c'était vendredi après-midi, que bonjour est devenu « qu'est-ce que vous faites dans la vie ?»« Vous aussi, vous aimez le sport ?» Et on a échangé quelques minutes. N'ayons pas peur d'aller vers, d'investir dans les relations. Ça prend du temps, mais ne nous décourageons pas. Aimer notre prochain, c'est donc apprendre à le connaître, mais c'est aussi nous mettre au service, avoir un esprit de service pour notre prochain. Et là encore, l'exemple de Jésus est très instructif. On peut penser lorsque la mère de Jacques et Jean vient demander à Jésus si ses deux fils peuvent être assis l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Lorsque Jésus sera dans sa gloire, qu'est-ce que Jésus répond ? Il lui dit ceci, « Je suis venu non pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour beaucoup. » Alors oui, là, Jésus et dans son rôle homme et Dieu à la fois qui vient pour donner sa vie, pour. Il a un rôle dans la rédemption qu'il nous a offerte sur la croix. Mais il est venu pour servir et non pas pour asservir. Il est venu pour se mettre au service, pour aller vers. Et il y a une attitude d'humilité de la part de Jésus. Ce ne sont pas que des mots, on peut se souvenir aussi la veille de sa mort quand il est avec ses disciples dans la chambre haute et qu'il lave les pieds de ses disciples, qui était une tâche réservée normalement aux serviteurs. Jésus met le tablier là et se met à laver les pieds de ses disciples. Ce ne sont pas que des mots. Jésus l'a réellement fait, et pas que de cette manière-là. On peut penser encore à ce que l'apôtre Paul dit dans la lettre aux Philippiens. Nous allons lire ces 8 versets. Philippiens chapitre 2, versets 1 à 8. N'avez-vous pas trouvé en Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement, par l'Esprit une communion entre vous ? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres ? Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même, et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes. Se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Ce passage montre en quoi l'exemple de Jésus est pertinent dans nos relations les uns avec les autres. Dans les versets 1 à 4 que j'affiche ici en vert, il y a ce à quoi nous devons tendre dans nos relations les uns avec les autres. Dans les versets 6 à 8, et même on pourrait lire jusqu'au verset 11, Paul donne l'exemple de Jésus-Christ. Et entre les deux, il y a ce petit verset 5 qui dit, je le relis, « Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. » Ce verset qui fait pivot entre ce que nous sommes appelés à être, les versets 1 à 4, à être et à faire les uns avec les autres, et l'exemple suprême, Jésus-Christ. Nous sommes unis à Jésus-Christ par la foi. Eh bien, Jésus est un modèle. Inspirons-nous de cela dans nos relations les uns avec les autres. Il y aurait beaucoup de choses encore à dire. Et nous aurons l'occasion ce mercredi, dans l'étude biblique, de revenir là-dessus et de voir aussi des prolongements pratiques à tout ce que nous avons abordé. Il y a une dimension que je ne vais faire qu'effleurer ce matin, mais qui me semble important à mentionner malgré tout. C'est la dimension du pardon dans les relations. Sans pardon, on n'avance pas loin souvent. Dieu, dans sa grâce, nous a pardonné en vertu de l'œuvre accomplie par Jésus sur la croix. Et là aussi, en retour, en réponse de la grâce de Dieu par nous, nous sommes invités à donner notre pardon, offrir notre pardon, pardonner ceux qui nous entourent et qui nous ont offensés. Ça mériterait un développement à part, mais je le mentionne ici, la dimension du pardon dans les relations. Nous aspirons à grandir à la ressemblance de Jésus et cela commence, comme on l'a vu, par des relations qui sont fondées sur l'amour. L'amour de Dieu à notre égard qui devient le moteur pour nous aimer Dieu en retour dans cette relation verticale et aussi dans l'amour du prochain dans ces relations horizontales. En tant qu'être relationnel, nous sommes invités à prendre l'initiative de la relation, d'aller vers l'autre comme Jésus nous montre le modèle suprême en Jésus, qui est venu vers nous pour aimer, pour donner sa vie pour nous. Nous sommes invités à développer une intimité, une proximité avec Dieu, pour mieux le connaître, pour mieux l'aimer, le servir, en réponse à son amour pour nous. Et nous sommes invités à développer de même une proximité avec notre prochain pour mieux le connaître lui aussi, en vue de le servir, d'être un témoin de la bonne nouvelle de Jésus. Jésus est ce modèle parfait, lui qui avait trouvé son identité dans sa relation avec le Père et qui nous invite aussi à trouver notre valeur, notre vraie valeur dans ce que Jésus a accompli pour nous et par amour, et que toute la gloire lui revienne pour cela. Amen.